Bienvenue sur Leadership, le podcast qui fait bouger votre leadership.
Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, gagner sur le marché des talents. Ça devient très très compliqué dans notre région, mais aussi dans d'autres régions du monde. L'article que je vais utiliser aujourd'hui est un article de McKinsey, donc qui parle beaucoup des États-Unis. Mais en lisant l'article, je me suis rendu compte que beaucoup des choses dont il parlait s'appliquaient ici, dans nos régions de Suisse romande, et plus particulièrement dans les régions dans lesquelles on a besoin de ce qu'on appelle de personnel qualifié, formé. Et je trouvais l'article intéressant parce qu'il donne, à mon avis, quelques pistes qui peuvent être intéressantes pour les entreprises qui ont de la peine à recruter, qui ne trouvent pas de personnel. Et donc, je me proposais d'en discuter avec vous cette semaine. Donc l'article McKinsey, que je mettrai en lien, hein, comme d'habitude, s'appelle Gone for Now or Gone for Good, How to Play the New Talent Game and Win Back Workers. Ou Parti maintenant, parti pour toujours, comment jouer au nouveau jeu des talents et regagner des collaborateurs. Je dis travailleurs, mais bon, workers, travailleurs. Je préfère collaborateurs ou collaboratrices. Donc c'est comment jouer au nouveau jeu des talents, et donc nous verrons quelques manières de le faire. Petit résumé des épisodes précédents. Pourquoi est-ce que cette vague d'attrition, cette vague de départ est différente? Parce que certaines personnes partent sans rien avoir derrière, sans avoir de job. Moi j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, face à face, j'ai quitté mon job, et pourtant j'ai pas trouvé de job. Et ça c'est nouveau, parce qu'avant, en général, on attendait, et puis, histoire de, quelque part, bien entuber l'employeur qui nous avait, hein, qui nous avait pas convenu, on attendait d'avoir quelque chose aligné. Et là, maintenant, des personnes disent « Non, j'en peux plus, j'en ai marre, je pars, tant pis, j'ai rien, c'est pas grave. » Numéro 1. Numéro 2, certaines personnes partent pour un job complètement différent. Hein. Alors, c'est pas l'histoire d'aller faire du fromage de chèvre dans le Larzac, ou plutôt en Suisse dans le Jura bernois, mais partent pour un job complètement différent, changent complètement d'industrie, changent de métier, il y a des coachs et des consultants partout. Donc, c'est pas que simplement on part pour rester dans son domaine professionnel, on part pour un job complètement différent. Et certaines personnes partent tout court. Encore un copain, l'autre jour, qui me dit « Ben écoute, tant pis, j'ai 60 ans, j'en peux plus, j'en ai marre, eh ben je pars. Tant pis, j'aurai moins de retraite, mais on se débrouillera, on fera avec. » Et ça, c'est nouveau aussi. Donc, quelque chose a fondamentalement changé. Alors, du point de vue de l'employeur, qui lui se dit, je dois quand même avoir des gens pour fabriquer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compétition n'est plus qu'avec les concurrents habituels. Hein, les gens que vous rencontrez dans les cocktails ou dans les événements organisés par la chambre économique locale, hein. La compétition n'est plus seulement avec ces gens-là. La compétition est aussi avec justement tous ces autres jobs non traditionnels ou avec pas de job du tout. Donc la question, c'est pas pourquoi tu devrais bosser chez Burger King plutôt que chez McDo, c'est pourquoi tu devrais bosser chez Burger King plutôt qu'ouvrir ton propre atelier de poterie, ou pourquoi est-ce que tu devrais bosser chez Burger King tout court. Et ça change tout, parce que ça ouvre complètement la manière dont ce qu'il faut proposer aux gens. Faut pas juste leur dire « Chez nous, vous allez être payé. » Ça, ils peuvent quasiment... Il y a des employeurs qui vont presque se prostituer pour avoir des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, ça ne suffit pas. Donc, ça ouvre ce marché, la compétition devient vraiment tous azimuts, et on ne concourt pas que contre des gens comme nous. On concourt contre d'autres types de métiers, d'autres types de flexibilité, d'autres types de valeurs de travail. Et ça, c'est très différent. Deuxième élément de résumé des épisodes précédents, parmi les personnes qui ont démissionné, l'attrition était la plus apparente dans quel secteur? Alors, aux États-Unis, mais vous verrez, donc, consommation, grande consommation, commerce de détail, santé, éducation. Regardez, chez nous, c'est à peu près pareil. On pourrait rajouter aussi l'hôtellerie, la restauration, alors qu'ils mettent dans les secteurs de la consommation, hein, j'imagine. Pourquoi? Alors, si je voulais être cynique et un peu méchant, je dirais qu'à force de traiter les gens comme de la merde, ils finissent par vous le rendre. Donc je pense que il y a beaucoup de ces entreprises qui, pour des raisons culturelles, historiques, voilà, franchement, la serveuse du restaurant, un jour elle est là, un jour elle est pas là, on a l'impression que c'est pas très grave, et puis que c'est déjà remplaçable, et puis de toute façon... Et je pense que c'est une énorme erreur de penser comme ça. Et du coup, ces collaborateurs, ces collaboratrices-là nous le rendent bien. Et donc, il y a des restaurants qui n'ouvrent plus que tel jour. Il y a des gens, nous, pour réserver des salles de séminaire, à partir du mois de décembre, c'est une catastrophe. Il y a des endroits qui ferment complètement. Tout le mois de décembre et le mois de janvier. Donc, tous ces secteurs dans lesquels les gens étaient maltraité ou pas bien traité ou pas conventionné, par exemple en Suisse on a le mécanisme de la convention collective de travail, eh bien ça donne des domaines dans lesquels il est beaucoup plus difficile de recruter aujourd'hui. Troisième résumé des épisodes précédents, pourquoi les personnes partent? Parce qu'elles peuvent, parce qu'elles sont en colère, parce qu'elles sont fatiguées. Parce qu'elles peuvent, le marché est tellement sec que les gens savent, les gens parlent entre eux. Ils disent, j'ai appris l'autre, il a mis 2 semaines pour trouver, meilleur salaire, plus de flexibilité, plus près de chez lui. Je veux dire, what's not to like, comme on dit. Je veux dire, pourquoi est-ce que moi je devrais rester dans mon entreprise où je suis moins bien payé, il n'y a aucune flexibilité. Tout ça fait partie, une espèce de grand marché du travail, avec beaucoup de barrières qui sont tombées. Parce qu'elles sont en colère. Top 3 des raisons pour lesquelles les personnes ont quitté leur travail sans job derrière. Donc vraiment les gens qui sont dit, maintenant j'en ai marre, ça suffit, je pars. Vous êtes prêts? Top 3 raisons. Numéro 1, des dirigeants indifférents. Uncaring leaders. Des dirigeants indifférents en 2022. Ça me paraît incroyable. Comment est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir des uncaring leaders? Partout, on n'arrête pas d'en parler. Je parle pas de mon podcast, mais vraiment, vous lisez la presse, la grande presse, les journaux au papier. Vous savez, les trucs qu'on tourne là pour regarder les feuilles, les pages. Là, il y a les articles, la télévision, le téléjournal, il y a des émissions. Je parle même pas des nouveaux médias, avec tous ces gens qui donnent des exemples de leaders qu'ils ont aimés, etc. Donc, j'ai de la peine à comprendre. Alors, vous me direz, moi, ça m'arrange, ça me donne du travail, mais en fait, non, pas tant que ça. Parce qu'en fait, ces gens-là, je les vois pas, moi. Moi, je vois que les gens qui font déjà l'effort, presque. Donc, top 3 raisons pour lesquelles les personnes ont quitté leur travail sans job derrière. 1, des dirigeants indifférents. 2, attente insoutenable en matière de performance professionnelle. Trop de pression. Performer. T'es crevé, tant pis, performe. Tu viens de te divorcer avec ta femme, je m'en fous, tu viens bosser. Parce qu'il faut livrer le client. Et je crois que ce qu'on apprend, c'est que ce qui fait vivre une entreprise, c'est pas les clients, c'est les collaborateurs. Alors, vous me direz, sans clients, il n'y a pas l'entreprise. Ouais, mais sans collaborateurs non plus. Alors, avant, c'était comme les citrons. On les pressait, on les jetait, on en prenait d'autres. Et là, maintenant, ce genre de méthodologie, ce genre de méthode, ce genre d'attitude est simplement plus possible. Troisième raison pour laquelle les personnes ont quitté leur travail sans job derrière, manque de possibilités de développement de carrière et d'avancement. Alors là, effectivement, quand vous êtes dans des petites structures, un restaurant, il y a un patron, un chef de salle, un cuisinier, vous êtes larbin. C'est compliqué d'avoir de l'avancement. Quoique, je suis sûr qu'on pourrait trouver des solutions. Mais c'est beaucoup plus difficile dans les petites structures, les petites PME, voire même les très petites entreprises. Donc là, si vous êtes une très petite entreprise, voilà, on peut toujours en discuter, mais effectivement, je pense que vous avez moins d'outils qu'une plus grande entreprise, même 200 personnes, où là, on peut bouger, on peut donner des rôles, on peut donner des responsabilités sectorielles. C'est quand même beaucoup plus simple. Mais sur les deux premiers, nous sommes tous concernés. C'est pas possible en 2022 que des gens doivent quitter leur job parce qu'ils ont des dirigeants indifférents ou parce qu'il y a des attentes insoutenables en matière de performance professionnelle. C'est pas possible. Alors ceux qui reviennent, d'ailleurs, pourraient repartir. Mais pour des raisons différentes. C'est intéressant. Première raison pour lesquelles ceux qui sont revenus pourraient repartir, manque de possibilités de développement de carrière et d'avancement. Deuxième, rémunération globale inadéquate. Troisième, manque de travail qui ait du sens. Donc en gros, ils sont revenus parce qu'ils ont trouvé des endroits où il y a des caring leaders, où il y a des dirigeants qui s'occupent d'eux, où il y a moins de pression. Par contre, ils continuent à dire, je veux progresser, je veux qu'on me paye au prix du marché, et puis je veux quand même que ce que je fasse ait un sens. C'est ce qui me fait que je lisais un titre d'article il y a quelques jours. On disait que d'ici 2050, la moitié des marques de luxe auraient disparu. Ben, c'est compliqué quand on fait du luxe, quand on fait que du luxe, entre guillemets, dans des environnements comme ceux dans lesquels on vit aujourd'hui. Urgence climatique, urgence géopolitique, guerre. Je pense que les gens cherchent du sens. Et c'est vrai que si le sens n'est que dans le produit, ça peut être difficile. Alors que si le sens est, par exemple, dans l'entreprise, dans la camaraderie, dans les liens sociaux qu'on a dans l'entreprise, je pense que ça peut faire vraiment aider, disons, l'entreprise à atterrir et conserver des collaborateurs. Donc, pour résumer, cette vague d'attrition est différente. Les gens partent parce qu'ils peuvent, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont fatigués, même s'il n'y a rien derrière. Les raisons principales sont des dirigeants indifférents et des attentes insoutenables en matière de performance, donc trop de pression. Comment faire? Alors, je vous ai détaillé trois steps. Le premier, c'est pay to play. C'est que vous devez vous aligner aux conditions du marché. Alors, c'est la compensation totale, hein, y compris caisse de pension, etc., etc. Donc, tout ce qui est avantage en espèces et en nature doit être revu pour vous. Sinon, vous ne jouez même pas. Sinon, vous allez même pas recevoir de CV. Donc, et c'est pire que ça, c'est que même si vous payez mais que ça ne sait pas, vous aurez des problèmes. Ça veut dire que vous devez trouver un moyen de faire que ça se sache, soit par les collaborateurs, soit en mettant un article dans la presse, mais donc vous devez vous aligner. Il n'y a pas le choix aujourd'hui. Vous devez vous aligner. Donc, c'est même pas comment faire pour attirer des collaborateurs, c'est même comment faire pour rien qu'avoir des CV pour être sur le terrain, pour jouer avec les autres, ou contre les autres dans ce cas-là. Ça, c'est le step 1. Le step 2. Alors, je vous le lis, hein, je l'ai traduit de l'anglais, parce que je pense qu'il est vraiment intéressant et je voulais pas le trahir. Hein. Step 2. L'examen de la rémunération et des avantages sociaux n'est que la première étape. Les entreprises doivent également investir dans la création de lieux de travail qui collent, hein, sticky en anglais, en écoutant les employés, en anticipant et en répondant à leurs préoccupations, pas seulement répondant, en anticipant à leurs préoccupations, en favorisant la sécurité psychologique et le sens de la communauté, on en parlait avant, et en mesurant les résultats. Plutôt que de mener uniquement les entretiens de départ, par exemple, votre entreprise a-t-elle mis en place des entretiens de maintien ? En demandant aux personnes occupant les rôles les plus critiques comment elles se portent, ce dont elles ont besoin pour continuer à occuper ces fonctions. L'entretien de fin d'année peut le faire, par exemple, pour ceux ou celles d'entre vous qui n'en ont pas encore. Le one-to-one. Parler régulièrement avec ses collaborateurs. Hein? Alors, si c'est pas fait par la ligne, il faut que ce soit fait par les RH ou par quelqu'un. Hein? Mais donc, l'idée, vous voyez, c'est de conserver le lien avec les collaborateurs et les collaboratrices. Suite de l'article. En fonction des réponses, les entreprises pourraient introduire de nouveaux types d'innovations, en matière d'horaire par exemple. Pourquoi ne pas établir une équipe de mi-journée pour les travailleurs ou permettre aux gens de constituer leurs propres équipes pour des projets plutôt que de les affecter à des équipes toutes faites. On parle là plutôt de grandes entreprises. Au cours des deux dernières années, certaines entreprises ont essayé d'autres mesures relativement simples et collantes liées à la rémunération, notamment en offrant des primes de bien-être aux employés, ou en accordant des jours de congés supplémentaires pour le développement professionnel, ou des pauses pour la santé mentale. Une société de parcs à thème et de divertissement a proposé de payer 100% des frais de scolarité des employés qui souhaitent faire des études supérieures. 100%. Dans cette nouvelle compétition pour les talents, les employeurs devraient reconnaître les différents rôles que la rémunération peut jouer à la fois comme facteur d'hygiène et comme source de motivation. Les individus peuvent rechercher une certaine fourchette de rémunération lorsqu'ils envisagent une offre d'emploi. Mais une fois le seuil atteint, des facteurs culturels peuvent rendre une entreprise plus attrayante pour y entrer et idéalement pour y rester. Donc c'est exactement ça, c'est vous aligner au niveau camp and ben, salaire et avantages sociaux, les gens viennent regarder. Mais une fois qu'ils viennent regarder, c'est pas ça qui va les faire rester. Ce qui va les faire rester, c'est ce que vous proposez en interne. Donc, se concentrer uniquement sur la rémunération ou uniquement sur les facteurs culturels ne permettra pas d'endiguer la vague d'attrition. Les chefs d'entreprise doivent accorder une attention constante aux deux. Donc, alignement au niveau des salaires et de la compensation totale, du package, et culture d'entreprise. Donc, je trouvais intéressant parce que bon, il donne une ou deux pistes, mais c'est vraiment cette idée que je ne peux plus jouer qu'avec les finances. Je ne peux plus jouer. Finalement, les gens, ils ont un contrat de travail et puis on les paye et puis ça suffit. Non, nous devons proposer autre chose. Nous devons nous occuper des gens comme de personnes. C'est fini cette espèce d'idée tayloriste où on achète finalement une partie de cerveau, 10 doigts et puis 2 pieds. Je pense que cette attitude-là vis-à-vis de collaborateurs ou de collaboratrices ne fonctionne simplement plus. Ça, c'était le step 2. Donc le step 1, vous vous souvenez, pay to play. Le step 2, écoutez. Step 3, étendre le territoire de pêche. Alors du coup, maintenant, on est aligné au nouveau Camp & Bend, ça va bien, mais on aimerait faire rentrer plus de CV. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il donne quelques pistes que certaines d'entre vous auront déjà étudiées, mais je pense que ça vaut la peine de les résumer. Première chose, les personnes qui sont pas, ou plus, ou pas encore sur le marché du travail. Personne pas sur le marché du travail, eh bien, des gens qui ont peut-être pris une retraite anticipée, des personnes qui sont à la retraite, des personnes qui sont sur le marché secondaire du travail. Marché secondaire du travail, ce sont toutes les institutions de réinsertion professionnelle. Il y a encore des gens dans ces institutions qui sont tout à fait capables de travailler en entreprise, mais pour l'instant, on les a jamais pris en compte parce qu'on imaginait que c'était pas nécessaire. Or là, il y a peut-être des personnes qui pourraient vraiment vous aider. Ou pas encore sur le marché du travail, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour établir de meilleurs liens avec les écoles, avec les étudiants, avec les stagiaires, Stage. Moi, j'ai entendu des gens, j'ai eu un CV de quelqu'un l'autre jour qui avait fait 8 stages de suite, non payés. Ben oui. Mais fatalement, ces gens-là, ils vont pas vouloir rester. Ils ont besoin de vivre comme tout le monde, ils ont besoin d'autonomie. Peut-être payer plus les stages, ou mieux, ou proposer d'autres choses que des stages courts, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui ne sont pas plus ou pas encore sur le marché du travail, il faut retrouver un lien avec le local. Parce que si vous allez sur le marché secondaire du travail, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui est en Roumanie d'intégrer, de travailler, de faire du sourcing pour quelqu'un qui est ici en Suisse, quoi. Il va falloir prendre quelqu'un ici en Suisse et puis que on aille dans nos communautés, dans les clubs de village, dans je ne sais pas où, pour voir où sont les gens. Parce que les gens, ils sont là. Deuxième manière d'étendre le territoire de pêche, des personnes qui sont parties. Donc, conserver le contact à tout prix. Quelqu'un part. On fait un super exit interview, on remercie la personne pour sa collaboration, on lui souhaite bonne chance et on garde contact sur LinkedIn. Tous les 3 mois, un petit message, allez, comment ça va? Ah, j'ai vu que t'as posté ça, super, bravo. LinkedIn ou d'autres messages, est-ce qu'on développe un alumni des gens, un petit club alumni des gens qui sont qui ont travaillé chez nous, comme finalement le font les universités ou les écoles. Troisième manière d'étendre le territoire de pêche, personnes non formées ou non formées traditionnellement. Alors oui, je viens de Roumanie, j'ai un diplôme d'ingénieur, il est pas reconnu en Suisse, dis donc. Et c'est le même ingénieur. Elle a les mêmes compétences que n'importe qui d'autre. Mais elle a été formée en Roumanie. Et alors? Est-ce que c'est vraiment un problème? Donc plutôt que de scier tous les CV qui ne correspondent pas au bon vieux CFC, plutôt plus haute école qu'on peut considérer en Suisse, pourquoi pas tester, essayer. Et alors, les personnes non formées traditionnellement, voire évidemment les personnes non formées. Les personnes qui font des jobs dans d'autres industries que la nôtre, mais qui ont peut-être des compétences similaires ou des idées similaires. On peut imaginer quelqu'un qui a fait beaucoup de services dans les restaurants, par exemple. Eh bien, c'est quelqu'un qui peut être tout à fait utile dans un travail, je sais pas, moi, de réception ou de prise d'appel téléphonique ou de support vente ou que sais-je. Mais essayez vraiment d'aller chercher des personnes qui sont pas formées dans notre domaine à nous pour voir si elles sont compatibles. D'ailleurs, il y a plus de 20 ans, l'entreprise dans laquelle je travaillais faisait du support technique en plusieurs langues. Et bien, plutôt que de prendre des techniciens puis de leur apprendre les langues, et bien, les gens avaient choisi les étudiants en lettres. Et puis de leur apprendre un peu la technique. C'était pas facile, mais ça marchait quand même pas mal. Et enfin, dernière manière d'étendre le territoire de pêche, pousser le recrutement interne. Alors ça, je sais pas mal d'entreprises le font déjà. Mais l'idée, c'est de dire, prime à l'engagement. Prime A. Vous connaissez quelqu'un, dites-leur de venir. Mais pour ça, il faut que vos collaborateurs et vos collaboratrices soient les ambassadeurs de votre entreprise. Alors ça, c'est quasiment un autre chapitre complètement. Mais vous voyez je pense qu'il y a des moyens d'étendre le territoire de pêche pour crocher les personnes et puis leur dire, voilà, on a quelque chose de bien chez nous. Venez et restez-y. Et d'ailleurs, j'ai été contacté récemment, j'ai une offre en cours avec un client potentiel qui a exactement cette démarche-là. Ils disent, c'est pas juste des gens qui partent, nous on aimerait à long terme pouvoir avoir des gens qui viennent, qui sont heureux d'être là et qui restent. Donc comment est-ce qu'on fait? Et donc on va travailler avec cette entreprise, enfin j'espère, parce qu'on n'a pas encore été sélectionné, on va travailler avec cette entreprise pour essayer d'amener cette dynamique, de voir qu'est-ce qui fait la particularité de cette entreprise, pour les aider à identifier ce qui fait leur force et mieux marketer, on pourrait dire, hein, mieux expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faut venir bosser dans cette entreprise et y rester. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.